Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Selon une estimation de l'ONU, qui est à prendre avec des pincettes, il y aurait au sein des combattants de l'État islamique 25 000 étrangers. Ils représenteraient la moitié au moins des forces de Daesh, ce qui redessine au passage complètement la géopolitique mondiale du djihad. Parmi ces combattants, on estime que 3 000 viennent d'Europe et 400 de France, la nationalité occidentale la plus représentée. Si on y ajoute les Maghrébins et Africains francophones et fort nombreux, on se rend compte que le français est la langue la plus utilisée au sein de l'État islamique, ce qui est une triste victoire pour les défenseurs de la langue française. Les filles, souvent jeunes, très jeunes, françaises, seraient une centaine. L'histoire que vous allez entendre est celle de l'une d'elles, Nora, 16 ans au moment de son départ. C'est aussi celle de son frère, Fouad El-Bati, un des premiers, un des seuls et un des rares à avoir tout de suite alerté les autorités et les médias de la disparition de sa sœur début 2014. Mineur, sorti de France sans autorisation de sortie du territoire, le cas de Nora a depuis fait école, si on peut dire. C'est à la suite de sa disparition et de celle de deux adolescents de Toulouse quelques jours auparavant, et à la suite de leur signalement, que les frontières ont été contrôlées plus systématiquement, avec un succès assez relatif. Partie le 23 janvier, Nora n'est jamais revenue. Mais son frère Fouad n'a jamais renoncé non plus à la faire revenir. Pour cela, il a quitté son travail de chauffeur routier, il est parti en Syrie la chercher, revenu, et depuis, il se bat sans relâche pour la retrouver. C'est le combat de sa vie à lui, récupérer Nora et empêcher que d'autres la rejoignent. Il est encore un des seuls à avoir le courage de prendre la parole publiquement, à raconter son histoire, malgré les pressions et même les agressions dont il a été victime à son retour. Il est aussi doux que ses mots sont durs, comme on l'entend jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, au micro de Leïla Djikli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ça a commencé le jeudi 23 janvier 2014. J'étais sorti avec ma mère chez l'opticien pour acheter des lunettes à mon autre petite sœur. Il y a ma petite sœur Nora, elle m'a dit « Ouais, est-ce que tu peux venir me chercher de l'école à 18h ?» Je lui dis « Je ne sais pas si j'aurai le temps. » Elle m'a dit « Ouais, vas-y, s'il te plaît. » Après, je lui dis « D'accord. » Puis après, elle a changé d'avis. Elle a dit « Non, non, c'est pas grave, si tu veux pas, bah, je viendrai en bus. » On s'en sortir ensemble le soir, parce que tous les jeudis, on aime sortir ensemble au restaurant. Comme elle aime bien manger. Et là, arrivé 18h30, pas de nouvelles d'elle. On essaye d'appeler son portable éteint. 19h, pareil, on s'est inquiété. 19h30, je suis sorti un peu dans le quartier pour voir si je la voyais pas avec une de ses copines. J'ai pas réussi à la trouver. Ma mère, elle a commencé à paniquer. Elle me dit, ouais, va dans les hôpitaux, va voir la police. J'ai fait l'hôpital d'Avignon, j'ai fait la clinique, rien. Ensuite, je me suis rendu au commissariat de police. Ils m'ont dit qu'il fallait que ce soit les parents qui viennent, puis essayer de ramener le maximum d'infos. On a passé une nuit blanche. Ma mère est en train de pleurer, puis essayer de savoir où aller. Parce qu'on a imaginé le pire, on a dit qu'elle s'était fait enlever, qu'elle est séquestrée, ou bien je sais pas, tombée avec des pervers sexuels, ou bien je sais pas quoi. Mais qu'il lui arrive un accident, on a imaginé le pire. Le lendemain, on est parti directement au lycée. On a expliqué la situation assez peu. Il a appelé les copines de classe de ma sœur. Elles ont commencé à parler. Comme quoi, ma sœur était partie à la gare d'Avignon pour récupérer une femme qui venait de Paris. Ça nous a vraiment étonnés. Après, je leur ai dit, est-ce que vous n'avez pas moyen de la contacter? Elle me donne un numéro, ça commence par 07. Je dis, ah, ça, c'est pas le même numéro que ma sœur. J'essaye d'appeler sur ce numéro-là, pareil, c'est ton champ répondeur. Après, je leur dis, ouais, vous n'avez pas un autre moyen de la contacter? Ils me disent, ouais, si, il y a Facebook. J'ai dit, ouais, mais je l'ai, son compte. Je suis en ami avec elle. Donnez-moi quand même son compte. Là, ça m'a vraiment étonné. Elle me donne, c'est Oum Saif Tawhid. Ça veut dire la mère de l'épée de l'unicité.
D'un seul coup, vous vous êtes rendu compte qu'elle avait un deuxième Facebook?
On s'est rendu compte qu'elle avait une double vie. Un deuxième compte Facebook, un deuxième numéro de téléphone, et puis un deuxième style vestimentaire. Ce qu'on a vu, c'est des photos de ses copines sur leur téléphone. Et là, elle était complètement gilbabé et puis niqabé. Et avec des gants. Et là, ma soeur venait à l'école avec un gilbabé et puis des gants. Sauf le visage, quand elle rentrait au lycée, elle enlevait le niqab, mais elle avait toujours le gilbabé. Puis elle mettait un bandeau noir. Puis là, ce qui nous a fait plus peur, c'est qu'on a vu son compte Facebook. Quand on voit la photo de la publication, le jour de son départ, elle avait mis un sac à main, un passeport et puis un billet d'avion. Et là, franchement, quand j'ai vu le compte, j'ai dit, c'est bon, c'est, elle est partie. Ses copines de l'école, elles étaient amies avec elle aussi sur le compte Facebook. Ça m'avait vraiment étonné parce qu'elles étaient courantes de tout, ils ont tout vu sur le compte. Ça a dû quand même les alerter, parce que c'est pas un compte anodin. Il y avait des publications d'enfants syriens massacrés, morts, déchiquetés, gazés. Et ma sœur avait fait un commentaire, elle avait dit, ouais, c'est vraiment honteux que les enfants subissent cet enfer, puis personne ne bouge. Puis après, il y avait une deuxième publication qui a été faite par une de ses amies. C'était de 4 femmes en niqab. Et c'est marqué au-dessus, oui, je tue en nom d'Allah. Et là, il avait mis plein d'armes, des kalachnikovs, des grenades, des cartouches. C'est vraiment affolant. Bah là, on est anéanti parce que là, on voit que c'est une personne étrangère. C'est même plus la fille que je connais. Ma mère, c'est même plus sa fille qu'elle a élevée. Elle a quoi? Elle a joué la comédie avec nous? Elle a fait semblant de nous aimer? Est-ce qu'elle nous aime vraiment ou qu'elle nous aime pas? Ma mère a dit, ouais, on a tout fait pour elle pendant 15 ans, et puis ils sont arrivés, et puis ils l'ont transformée. On est 6 en tout, j'ai 4 sœurs et 2 frères, et un frère plutôt. On s'aime beaucoup, on peut pas se séparer. Dès que je pars une journée, tout de suite, je reçois 50 appels. C'est, on n'a que des mots doux entre nous. Oh, je t'aime, mon cœur, mon bébé. Et on s'envoie des petits cœurs. Non, c'est vraiment très fusionnel. C'est vrai, apparemment, on faisait beaucoup de jaloux. Et trop d'amour, comme on dit. Ma soeur, quand elle est partie en Syrie, elle avait 15 ans. Ça se passait très bien à l'école, puis elle était en seconde. Elle avait 13 de moyenne au premier trimestre. Donc elle n'avait rien à redire. Et c'était une fille très sensible, douce, gentille. Il y avait une personne âgée qui habitait au-dessus de chez nous. Et ma soeur, des fois, elle se mettait à la fenêtre de la cuisine puis elle regardait dès que la femme arrivait pour descendre, pour l'aider, pour monter les courses. Donc elle restait discuter avec elle. Et discuter. Elle, son objectif, c'était de devenir médecin, mais travailler bénévolement. Et ma mère dit, ouais, mais quand tu vas faire pour vivre? Elle dit, ouais, c'est Allah qui subvient à nos besoins. Dans la famille, on est tous pratiquants. Puis elle avait le même parcours que nous. Sans excès. Mais là, malheureusement, elle est vraiment tombée dans une secte. C'est ça qui est dur. Alors qu'elle sait les pièges à éviter, tout pour éviter les sectes, mais non. Parce qu'on a quand même eu des discussions sur ce qui se passait sur le 11 septembre, tout ça. Et sur les attentats de Londres. Mon père disait, ouais, faut faire attention parce que c'est des personnes mauvaises qui font ça, ils ont rien compris à l'islam. On a découvert une personne étrangère. Après, on s'est aperçu qu'il y avait une femme de Paris qui était devenue amie avec elle sur Facebook, qui était devenue très proche d'elle, qu'elle lui a donné vraiment tout le mode d'emploi pour s'isoler, s'écarter de sa famille, s'écarter de ses amis. Elle a tout fait pour l'écarter de ceux qui peuvent la sauver. Elle dit, ouais, mais faut pas aller avec tes amis sont pas bien, ils sont égarés, ils aiment trop la dunia, la vie. Mais tes parents aussi, c'est vrai, c'est des pratiquants, mais ils connaissent rien à l'islam. Ils savent pas ce que c'est le vrai islam. Ils travaillent pour payer des impôts, avec les impôts, on achète des armes, avec les armes on tue tes frères syriens. T'as eu tous les morts qu'il y a, c'est grâce à l'argent que tes parents donnent. Grâce aux musulmans qui aident les mécréants à détruire les musulmans. Au fur et à mesure, ils ont réussi à lui laver le cerveau. Puis elle y a cru, puis elle est partie. Et sur le cas de ma soeur, c'est que le pire, c'est que celle qui l'a recrutée avec son mari était apparemment en Irak. Et la femme, il y avait aussi une amie à elle et puis un autre homme qui l'ont manipulée. C'est eux qui lui ont payé le billet d'avion. C'est tous des parents. Ils ont tous des enfants. Ils ont tous pas voulu partir en Syrie car ils ont trouvé la Syrie trop dangereuse. Puis ils ont envoyé ma petite soeur toute seule. Sans aucun remords. ça m'écœure, parce que normalement, une mère a quand même un instinct maternel. C'est ce que c'est d'avoir des enfants, ferait tout pour pas mettre leurs enfants en danger. Et là, ils ont envoyé ma petite sœur, et arrivé à l'aéroport, ils ont été voir une famille turque pour leur dire de s'occuper d'elle, car c'est la première fois qu'elle voyageait. Ma petite sœur, c'est une fille timide, très réservée. Donc, je crois qu'elle s'est sentie coincée le jour du départ, au milieu d'adultes. Moi, je dis qu'elle avait quand même une envie de partir. Mais le jour qu'elle est partie, elle sait que c'était vraiment précipité. Parce qu'ils sont malins, ils disent comme quoi il y aura un départ, mais ils disent jamais le quand exactement, pour pas qu'ils se fassent attraper. En y réfléchissant mieux, quand elle est partie, c'est qu'elle nous a fait vraiment un appel à l'aide, pour essayer de la retenir. Ça, je le regrette à fond de ne pas l'avoir cherchée. Parce qu'elle a vraiment insisté, et puis après, elle a laissé tomber. Elle a quand même fait un appel à l'aide. Si j'avais su, j'aurais été à Orly, la récupérer, mais malheureusement, on ne peut rien y faire. Ça, c'est un enfer, ça. Dimanche soir, je reçois un message d'une amie à elle. Elle me dit « Ouais, connecte-toi sur Facebook, Nora, elle est connectée. » Donc je me connecte sur Facebook, j'ajoute un ami, elle accepte, et puis quand on commence à parler, elle dit c'est bon, ne vous inquiétez pas, je suis en Syrie, à Alep. Et là c'est la douche froide. Là je vois ma mère qui est en train de pleurer. Là je dis c'est foutu. Et puis elle nous parlait, elle était vraiment heureuse, elle dit je me sens bien, je dis enfin aider nos frères et sœurs syriens. Je vais enfin servir à quelque chose, je vais en fait être valorisé. Je dis comment tu fais pour être heureuse alors que tu es en train de tuer tes parents? Ta mère, elle va aller à l'hôpital. Ton père, il est malade du cœur. Et tes frères et sœurs, tu as t'en penser à eux. Comment tu peux être heureuse alors que tout le monde est malheureux? Elle dit, oui, mais ça, c'est qu'une épreuve d'Allah. Si je meurs en martyr, je pourrais intercéder pour vous au paradis. C'était pour nous protéger. Quand on était dans l'égarement, la seule chose qu'elle peut faire, c'est que de mourir là-bas, dans le pays du Cham. Et puis, comme ça, elle ira au paradis, puis elle nous emmènera tous au paradis. Elle pourra intercéder pour nous. Elle fait ça que pour nous. Elle dit, je me sacrifie pour vous. Mon père, il a été choqué quand il a entendu ça. Il a dit, ouais, mais comment tu sais que tu vas aller au paradis, toi? Vous êtes tous entre barbares, et puis tu crois que tu vas nous emmener au paradis comme ça, aussi facilement? Elle était complètement dans un monde. Elle dit, c'est bon, on l'a perdu. Bon, elle lui a dit, reviens plusieurs fois, mais jamais elle a voulu revenir. Elle dit, non, c'est pas la peine. De janvier à mi-mars, on l'avait tout le temps au téléphone. 5-6 fois par jour. Souvent par Facebook. Mais mi-mars, elle a commencé à craquer. Et là, elle a commencé à pleurer. Elle dit, ouais, je regarde ce que j'ai fait. Maman, pardon. J'aurais dû jamais te laisser tomber. Je vous aime trop. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Carrément, elle a pleuré. Et puis là, le téléphone, ça a coupé. On a essayé de la revoir, ça ne décrochait pas. Bah, à partir de ce moment-là, c'est très rare qu'on l'ait eu au téléphone. Très, 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 très rare.
France Culture, les pieds sur terre.
Mon objectif, c'est de savoir où elle était en Syrie, pour essayer de la récupérer. Au début, j'ai cru qu'il n'y avait qu'un seul groupe en Syrie. C'est en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait deux groupes principaux, Daoula et puis Al-Nusra. Et après, j'ai vu que ma sœur était plus du côté d'Al-Nusra. Donc ensuite, j'ai regardé les cartes de Syrie. J'ai vu qu'ils étaient plus du côté d'Alep, jusqu'à la frontière. Après, j'ai vu aussi qu'ils étaient proches de Al-Qunitra, du sud de la Syrie. Et j'ai su par hasard que le nouveau émir de ma sœur, c'était Omar Hamsen. J'ai fait des recherches sur cette personne, j'ai vu que c'était lui qui faisait les vidéos, c'est qui recrutait pas mal en France. Donc je tape Omar Hamsen sur Facebook, paf, je tombe dessus. Trop facile. C'était le seul. J'ai vu qu'il y avait plus de 2000 amis sur Facebook. J'ajoute un ami, après je suis rentré en contact avec lui, aussi facilement. J'ai fait connaissance avec lui, tout ça. Je dis, ouais, c'est pour venir en Syrie, pour voir ma sœur, tout ça. Puis il m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci, tu peux venir, tu rentreras en sécurité, tu ressortiras en sécurité. Puis il n'y a qu'une seule condition, c'est que ta sœur, tu ne peux pas la forcer à revenir. Si elle veut venir, on laisse venir. Si elle ne veut pas, elle ne vient pas. Je dis, ok, pas de problème. Par contre, on s'est fixé un rendez-vous. J'ai pris l'avion Marignane, Istanbul, Istanbul, Hatay, Hatay, Rayanli. Je suis resté à Rayanli pendant 15 jours à peu près. Et au bout de 15 jours, un mardi, je reçois un appel. On me dit, ouais, demain, mercredi, tu bouges pas à midi, le passeur vient te chercher. Le lendemain, midi pile, j'entends toquer à la porte de la chambre. C'était le passeur. Ensuite, on part, on roule pendant peut-être une heure en Turquie. On traverse la frontière sur un radeau. Ouais, un radeau. Il y avait une petite rivière. Donc, on m'a fait traverser. Arrivé de l'autre côté, le passeur qui foise, je dis ouais. Il dit monte dans le pick-up. Je monte dans le pick-up et là, je vois à côté de moi une calache. Je dis merci. Donc c'est vraiment réel. Là j'ai vu que c'était vraiment réel. Au début c'était loin. Mais là quand je vois l'arme juste à côté de moi, juste prêt à être utilisée. Après on repart. Et en route on voit des pick-up. Tout ce qu'on voyait à la télé. Ça c'était incroyable. Avec des gros drapeaux noirs, avec ils avaient des mitrailleuses sur l'arrière du pick-up. Mais c'est vraiment bizarre. C'est que j'arrive pas à l'admettre que c'est vrai. J'arrive pas à y croire. Puis à partir de là, il commençait à rouler comme un dingue, puis il me parlait, il dit, ouais, pourquoi tu restes pas là pour faire le djihad, c'est très important. Toi, tu restes en France avec les mécréants, alors que tu peux aider tes frères et sœurs. T'as plus d'importance ici que là-bas. Il dit, à force, vous, ceux qui vivent en France, franchement, je vous comprends pas. Je dis, comment vous faites pour vivre dans un pays qui vous déteste? Puis je suivais dans son mouvement, il dit, ouais, t'as raison, faut que je réfléchisse. Après, on a roulé pendant peut-être une heure et demie, deux heures. Mais c'est, franchement, j'ai cru que j'allais mourir juste en route, quoi. Parce qu'il roulait vraiment comme un taré. Et quand il tournait à gauche, il regardait pas ce qui venait à droite. Et quand il tournait à droite, il regardait pas ce qui venait à gauche. Et il roulait, et puis d'un seul coup, au milieu de la route, il y avait des gros talus de cailloux, de sable. Donc il montait sur le talus, puis redescendait. C'était fou. Et là, je me suis dit, vraiment, je suis tombé dans un monde de taré, quoi. Après, on s'arrêtait à côté d'une villa. C'est là que je vous le dépose. Donc je descends. Puis là, c'était tous des Français. Là, c'est comme si c'était en France, quoi. C'était pareil. C'était que des Français, étaient tous habillés avec des camises, des chemises longues avec les pantalons traditionnels. Ils avaient tous des caloches. Puis, sincèrement, au début, ils m'ont tous super bien accueilli. Ils étaient tous gentils avec moi, proches. Ils disaient, ouais, ce que tu veux. Ils diraient de venir manger une pizza. Donc, on est sortis en ville, on a mangé une pizza, bien Pepsi. C'est comme si on était en France, quoi. Sauf qu'il y avait des armes. Une demi-heure après, il y a Omar Ramzan qui est arrivé. Puis après, il commence à parler. Il s'énervait pas, il parlait vraiment doucement. Après, il me sortait des hadiths, il me sortait ici, ça. Puis, comme j'avais quelques connaissances, j'ai vu qu'il y avait quelques incohérences dans ce qu'il disait.
Vous voulez dire dans les hadiths et dans les sourates et dans les versets qu'il vous sortait?
Ouais, il y avait beaucoup d'innovations. Et puis, il y a des moments, ça me faisait marrer, il avait sorti un hadith, mais il n'avait pas mis en lentille, il avait mis juste la partie qui l'intéressait. J'avais envie d'y dire, mais il me dit, t'as pas oublié le début et t'as pas oublié la fin. Non, mais il était malin, il sait ce qu'il faut utiliser. Ouais. Et puis les autres, ils étaient tous là, tous bouche ouverte, ébahis. Il faisait d'eux ce qu'il voulait, quoi. Puis à chaque fois qu'il me parlait, je regardais ailleurs, il me reprenait, il disait, ouais, mais regarde-moi quand je te parle. Après, j'ai appelé mes parents, je les ai rassurés, je dis, c'est bon, je suis rentré, mais ils sont tous gentils avec moi, tout ça. Mm-hmm. Mais c'est vrai, ils étaient tous gentils, il n'y a pas un qui m'a manqué de respect. Mm-hmm. Et à chaque fois que je sortais dehors, j'étais toujours protégé, il y avait toujours des mecs armés avec moi. Mais en fait, moi, c'était pas pour ça. Moi j'ai cru que c'était pour me protéger, mais en fin de compte c'était pour éviter que je m'échappe ou bien essayer de récupérer ma soeur. Ils m'ont dit ouais, on sera toujours là pour toi, on va t'aider. De toute façon tu vas récupérer ta soeur, il n'y a pas de souci. Donc c'est bon, c'est le top. Le lendemain, Omar me dit ouais, tu vas aller voir ta soeur. Franchement, là, j'étais super content. Je disais, enfin. Pourtant, j'y croyais même plus. Après, toute la journée, j'attends. Pas de nouvelles de lui. Après, vers 22h ou 23h, Omar, il arrive avec son bras droit et puis son chauffeur. Viens, on va aller voir ta soeur. Là, j'ai dit, alhamdoulilah, enfin. Ouais. Après, j'ai cru qu'on allait partir en voiture. On dit, non, on va y aller à pied. C'est pas loin, c'est à 5 minutes à pied. Donc, on y va, on marche. On s'arrête en route dans une boutique. On achète quelques gâteaux, des bonbons pour les enfants. Puis... Il dit ouais, moi je prends toujours des gâteaux et des bonbons pour ta soeur aussi. Parce qu'il s'est dit que c'est une gourmande. Puis je commençais à rigoler, j'ai resté vraiment sincère. Franchement, j'étais naïf. On arrive devant un immeuble, on monte, on frappe, il y a un autre homme qui ouvre la porte. Il dit, ouais, Fouad est venu voir sa sœur. Il dit, ok. Après, Omar, il me dit, ouais, mais t'attends ici, dans le couloir, je vais dire aux femmes de se vêtir. Ok. Et j'entendais Omar parler avec ma sœur. J'entendais sa voix, franchement, plus j'entendais sa voix, plus mon cœur il palpitait. C'était vraiment elle. Mais j'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Ça sentait tellement que stressé. Je savais qu'elle était juste à côté de moi. Je savais qu'elle était pas loin. Après, il revient. Et il me fait rentrer dans la pièce. Et puis je vois ma sœur, elle me voit, elle me saute dessus, je saute dessus. On n'a même pas parlé, je pleurais, elle pleurait, on voulait plus se lâcher. Peut-être pendant moins 10 minutes, on ne veut plus se lâcher. Elle m'embrassait, 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 elle m'embrassait là. Même sur la bouche, sans faire exprès. Elle ne voulait plus me lâcher, la pauvre. Ouais, j'en ai des frissons, franchement. C'était vraiment très dur, franchement. Elle dit, tu me manques trop. J'ai pas arrêté de penser à vous. Dis-toi si je t'aime trop. Je ferai tout pour toi. Elle dit, ouais, moi aussi, je ferai tout pour toi. Elle dit, comment va maman, comment va papa, mon petit frère, mes petites sœurs. Elle me dit, ouais, ils vont bien, mais... Franchement, t'as anéanti ta famille. Puis là, commence à pleurer, puis taper sa tête contre les murs. Après, je lui dis, alors, c'est bon, tu reviens avec moi. Non, je peux pas. Tu veux pas? Ou tu peux pas? Elle dit, non, je peux pas. Après, commence à discuter, puis de temps en temps, elle faisait ça. Avec ses yeux, elle bougeait ses yeux... Comme si ça voulait me faisait montrer quelque chose. D'accord. J'ai pas capté au début. Elle me l'a fait plusieurs fois, mais je sais pas ce qui s'est passé. Après, je vois sur le meuble, il y avait une caméra, qu'il y avait le bouton rouge qui clignotait. À partir de là, j'ai compris. J'ai dit qu'on allait vraiment séquestrer. Après, je dis, bon, maintenant, il serait temps que tu enlèves ton niqab. Puis elle a enlevé son niqab, puis là, elle m'a vraiment fait peur. Mais là, elle a vraiment dit qu'elle avait pris au moins 10 ans d'âge, et puis elle avait le visage enflé, elle avait le teint jauni. Ça m'a tué. Et là, j'ai vu comme quoi vraiment, elle était vraiment victime, retenue physiquement et mentalement. Là, je me suis dit vraiment que je crois que j'ai peut-être perdu. Puis après, à partir de là, ma soeur commence à craquer, à pleurer. Elle dit, vous me manquez trop, j'ai envie d'aller vous voir, j'ai envie de serrer maman dans mes bras, j'ai envie de revoir mon petit frère. Et là, Omar, il a senti qu'elle allait craquer. Il m'a dit, viens, on part, tu reviendras voir ta soeur demain. Parce qu'elle est tard, faut que les autres, ils dorment, tout ça. Moi, j'ai cru que c'était vrai. Donc on est retourné, franchement j'étais content, j'étais soulagé de l'avoir vu. J'ai appelé ma mère était soulagée, elle a parlé avec ma soeur au téléphone. Ils pleuraient tous, franchement il y avait trop d'émotions, c'était vraiment... Après on est reparti, moi ils m'ont déposé à la villa, puis eux ils sont repartis de l'autre côté. Sincèrement j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas arrêté de penser à elle. Omar il m'a dit demain matin je t'emmènerai vers 8h voir ta soeur, comme ça tu passeras la journée avec elle. Franchement, c'était trop long pour moi. Quand j'ai pas dormi, j'attendais 8h. Rien, 8h30, 9h, 9h30. Arrivé 11h30, je vois qu'il y a personne. Et quand j'étais dans la cour, il y avait ceux qui étaient avec moi, qui me gardaient. Il est rentré à l'intérieur et moi j'en ai profité pour sortir. Donc je suis sorti, je suis parti à pied directement où elle était ma sœur. Je frappe à la porte. Et là c'est un homme qui ouvre la porte. Il dit ouais, je suis venu voir ma sœur, c'est Omar qui me l'a dit. J'ai menti. Il me dit ok, pas de problème, je suis rentré. Et là ma sœur a commencé à pleurer, à craquer. Puis lui il avait appelé en même temps Omar. Donc on m'a dit de partir, de rentrer à la ville là. Après Omar, il est arrivé une demi-heure après, il a commencé à crier, il dit « Ouais, mais tu sais que t'aurais pu risquer ta vie, t'aurais pu te faire tuer, t'aurais pu te faire enlever. » Sincèrement, je l'ai pas cru du tout. Le lendemain, on m'a dit « J'avais plus le droit de sortir. Si ça, il faut qu'il y ait toujours des mecs armés avec moi. Et il fallait que je demande aussi l'autorisation de sortir. » Donc il repart. Une heure après, moi je rentre dans la chambre, où ils se mettent tous dans cette chambre-là, puis ils sont tous sur Internet. Facebook, site de rencontre, ils sont tous là en train de recruter, ouais. À draguer, chercher des filles. 5 minutes après, j'entends crier à l'extérieur. Et là, il y a au moins une quinzaine d'hommes qui arrivent cagoulés, armés. Ils arrivent, ils me prennent, ils me balancent par terre. Ils me mettent une cagoule, ils me mettent les menottes. Après, on m'a monté dans un véhicule. On m'a dit d'abaisser ma tête. Ils ont dû mettre une espèce de couverture au-dessus de moi. Puis après, on a commencé à rouler pendant un moment. Puis à chaque fois, j'essayais de me lever, on me tapait à l'arrière. On a roulé comme ça pendant environ 2 heures, 2 heures et demie. Après, on m'a emmené dans un autre endroit. Après, on m'a déshabillé, tout nu. Je sais pas combien de temps après, il y a une personne qui arrive. Il se fait passer pour les services secrets d'Al-Qaïda. On sait que t'es un espion, que t'es venu là pour nous espionner. Il me posait des questions sur ma vie, ce que je faisais. Quand j'ai fait mon service militaire, ils ont cru que j'avais fait l'armée, que j'avais fait la guerre, tout ça. Ils me disent que j'avais tué des musulmans. Puis ils commençaient vraiment à délirer. De toute façon, demain, on tue pas son tribunal et puis après, on te exécute. Dans la nuit, je crois, il y a Omar qui arrive. Il fait semblant de crier, ouais, comme ça se fait, vous l'avez enlevé, alors que c'est mon invité. Et il se fait passer pour le super gentil. Après, il me dit, ouais, t'inquiète, je vais pas te laisser tomber, je vais aller négocier avec les émirs, les grands émirs, pour leur prouver qu'on côté pas un espion qui était venu là juste pour récupérer ta sœur, puis c'est bon. Après, il est parti, ça fait semblant de crier. Et là, j'ai vu qu'on c'était de la comédie. Peut-être 2 heures après ou 3 heures après, il revient. Il dit, ouais, c'est bon, c'est moi qui va terminer l'interrogatoire. Après, il prend le papier, puis il regarde tout ça, et puis il dit, ouais, tout ce que t'as dit, c'est vrai. Il dit, ouais, c'est vrai, de toute façon, j'ai rien à mentir, je suis venu pour ma sœur. Ouais, de toute façon, je sais que t'es pas un espion. Il m'a fait sortir. Donc, il m'emmène à la villa où il vivait, lui. Et là, j'avais plus le droit de sortir, prisonnier. Après, il y a à la fin où Omar et son bras droit, on me dit, si tu veux que récupérer ta sœur, tu dis au gouvernement que le seul moyen de récupérer Nora, c'est de me laisser passer, de rentrer en France, voir sa mère.
Nora en monnaie d'échange d'un laisser passer. Ouais.
Mais c'est qu'un menteur, en fin de compte. Et à partir de là, j'ai plus revu ma sœur.
Où est Nora maintenant? Où est-ce qu'elle est?
Dernièrement, ça faisait 3 mois qu'on n'a pas eu de nouvelles de ma sœur. Après, on a eu des nouvelles. Bon, la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est proche de la frontière et qu'elle est en sécurité. C'est tout.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, déradicalisation. Le deuxième volet, le combat de Fouad El-Bati, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Fouad ainsi qu'à Dounia Bouzard. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des pieds sur terre, évidemment. Maxime Hardy, notre stagiaire. Vos commentaires, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des pieds sur terre. On attend toujours de vous lire avec impatience ou de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous êtes, je vous en remercie, de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter. Voilà, n'hésitez pas à partager nos émissions si elles vous ont intéressé et évidemment à vous abonner à notre podcast. En attendant donc de vous retrouver ailleurs, je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de notre chaîne. Vous le savez, il n'y a pas que les pieds sur terre.